chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce sixième épisode de 2026 du balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope. Je suis Sophie Martin et je suis accompagnée de
Julie Blanchette.
Lors du lancement du balado en 2024, un sondage nous a permis de recueillir les sujets que vous souhaitiez voir abordés. Les soins de plaie figurant parmi les thèmes les plus souvent mentionnés, mais cet épisode y est consacré. Nous y explorerons plus précisément la pratique en soins infirmiers liée aux soins de plaie sous l'angle de la responsabilité professionnelle des infirmières et des infirmières auxiliaires avec nos invités en studio.
Oui, donc on accueille avec nous aujourd'hui Jessica Paradis, qui est infirmière clinicienne de profession, mais aussi conseillère cadre clinicienne à la direction des soins infirmiers là, pour le service de stomothérapie, qui a un grand intérêt, bien sûr, pour les soins de plaie, ayant complété un micro-programme de deuxième cycle de pratique avancée en soins de plaie. Et on a donc aussi avec nous Catherine Bernier, qui est infirmière clinicienne aussi et stomothérapeute pour la DSI au CIUS de l'Estrichu. Alors, son expérience à titre de conseillère en soins infirmiers à la pratique professionnelle a grandement contribué au développement de son sens critique, qui est plus approfondi finalement en matière de responsabilité infirmière. Alors, bienvenue à vous deux.
Merci. Merci. Bienvenue. Merci de l'invitation.
Les infirmières que les infirmières auxiliaires peuvent prodiguer les soins et traitements reliés aux plaies et altérations de la peau. Ce qui distingue le rôle des infirmiers et infirmières est que ces professionnels peuvent aussi déterminer le plan de traitement relié aux plaies et altérations de la peau et des téguments selon leur activité réservée numéro 7.
En effet, pour plusieurs infirmiers et infirmières, d'assumer cette responsabilité-là d'élaborer des plans de traitement qui sont appropriés, ça peut parfois être très complexe. Et c'est pourquoi d'ailleurs que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec encourage grandement ses membres à la formation continue dans ce domaine-là, justement pour soutenir les professionnels dans l'exercice de leur autonomie en soins de plaie, au bénéfice de la santé et de la qualité de vie, bien sûr, des usagers et usagères. Alors, on va aborder d'ailleurs un petit peu plus tard le sujet de la formation continue, mais je vais ouvrir tout de suite avec le sujet d'aujourd'hui. Où est-ce que j'aimerais justement avec vous, là, Jessica et Catherine, qu'on vienne élucider, là, clarifier c'est quoi la responsabilité professionnelle infirmière, mais aussi de l'infirmière auxiliaire en matière de soins de plaie, et plus précisément, là, en quoi consiste la responsabilité de déterminer un plan de traitement pour les infirmiers et infirmières?
Ben oui, en effet, Julie, tu nommes bien. En fait, les infirmières ont vraiment la capacité de pouvoir déterminer un plan de traitement infirmier secondaire à l'activité réservée numéro 7 de leur champ d'exercice, qui se lit comme suit. Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent. Clairement que cette activité est au cœur même, en fait, de leur champ d'exercice infirmier, qui indique que la pratique infirmière consiste à évaluer l'état de santé d'un patient, mais aussi d'en déterminer et d'assurer la réalisation de son plan de traitement qui soit infirmier, de même que de prodiguer aussi les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but d'assurer des soins qui répondent aux besoins des patients dans leur contexte de vie précis. Donc, pour être en mesure, en fait, de déterminer le plan de traitement de plaie immanquablement, bien, l'infirmière ou l'infirmier doit d'abord évaluer. Ça veut dire quoi, évaluer? Bien, c'est l'évaluation, c'est la pierre angulaire de notre profession. C'est ce qui est au centre de nos actions. C'est sûr que cette activité-là, bien, repose sur un ensemble de nos interventions et de nos décisions. C'est aussi une obligation qui est déontologique selon notre code de déontologie. L'infirmière, par exemple, qui n'évalue pas la condition de l'usager et qui détermine un plan de traitement de plaie, ça pourrait au final causer un préjudice à l'usager si elle a mal saisi l'importance ou l'étiologie de la plaie, par exemple. Elle pourrait même être accusée de manquement en vertu de l'article 44 au Code de déontologie qui traite de la négligence dans les soins.
Oui, parce que l'article 44 indique l'infirmier et l'infirmière ne doit pas faire preuve de négligence. À cet effet, il doit notamment, première chose, évaluer la condition de santé qui est requise par l'usager.
Mais qu'est-ce que ça implique concrètement quand tu dis, Julie, tu sais, évaluer un patient, évaluer en soins de plaie? Parce que ça peut être un petit peu différent, évaluer un usager dans une condition clinique autre. Mais évaluer en soins de plaie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, ça implique de savoir bien évaluer la plaie, oui, mais comme je l'ai un petit peu mentionné, d'évaluer aussi l'usager dans sa globalité. C'est quoi ces facteurs biopsychosociaux qui peuvent avoir une influence sur la guérison de la plaie? Qu'est-ce qu'il va falloir tenir compte pour arriver à en déterminer un plan de traitement qui soit efficace? Ça peut compter, par exemple, les comorbidités de l'usager qui peuvent influencer son potentiel de cicatrisation, son alimentation qui va avoir un impact dans le processus de cicatrisation, son niveau d'activité physique, sa médication. Il y a aussi peut-être des enjeux ergonomiques, son niveau d'adhésion aux soins de plaie, ses habitudes de vie, son contexte économique, son milieu de vie. Bref, tout ce qui est autour du patient va avoir une influence sur ce qu'on va devoir déterminer comme plan de traitement en soins de plaie.
Exactement. Oui. Mais justement, ça m'amène à parler de la notion de cas unique. Lorsqu'on parle de sécurité et qualité des soins, le cas unique, on dit que chaque personne doit être considérée comme étant singulière, complexe, mais aussi instable. Donc, la pratique partenaire avec l'usager est super important pour tenir compte de cette réalité-là de la personne, de son évolution, mais aussi de sa capacité d'engagement, de ses besoins qu'elle a. Donc, tu parlais de l'étiologie de la plaie tantôt. Je te laisse poursuivre là-dessus, justement, l'étiologie de la plaie.
Bien, en fait, c'est qu'une même étiologie, fait qu'on peut dire, par exemple, un ulcère du pied diabétique, pour en donner un exemple, bien, il pourrait avoir une approche de différente pour toi, Julie, versus pour toi, Sophie. Donc, vous avez le même type de plaie, mais vous n'avez pas le même contexte social, le même contexte économique. Peut-être vos habitudes de vie sont différentes, votre alimentation est probablement différente aussi. Donc, ce qu'on aime dire un peu en soins de plaie, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il faut vraiment adapter notre recette à nos besoins, que ce soit tes besoins à toi, Julie, ou à ceux de Sophie. Donc, c'est un peu ça le concept du cas unique, c'est que c'est une approche de traitement qui va être différente pour une personne comme pour une autre, pour un même type de plaie, en considérant effectivement ses conditions particulières.
Et quand on parle d'évaluer aussi, je ne peux pas m'empêcher de parler de la pertinence des soins, parce que c'est un sujet qui est très d'actualité depuis 2 ans bientôt. Quand on parle de pertinence, Jessica?
Mais en fait, c'est qu'il y a toujours des lignes directrices, des normes de pratique qui vont guider notre pratique infirmière, ne serait-ce que pour l'évaluation de la plaie. On dit souvent qu'il faut évaluer une plaie aux 7 jours de manière standardisée pour avoir une fréquence, avoir un guide de pratique, mais il faut aussi voir la pertinence de le faire. Donc, est-ce que le patient a une plaie chronique depuis 5 ans? Bien, il faut se questionner sur l'évaluation. Est-ce qu'elle est pertinente d'être faite, par exemple, à toutes les semaines ou bien par jugement clinique de l'infirmière, on peut déterminer qu'on va évaluer cette plaie-là peut-être aux 2 semaines, peut-être aux 3 semaines, mais peut-être aussi dans 3 jours parce qu'on veut être sûr de bien s'adapter puis de bien traiter le patient de manière sécuritaire et avec des soins de qualité. Fait que c'est là que la pertinence a son lieu d'être, où est-ce qu'on va s'ajuster en termes de prise en charge, si je peux me permettre.
Le libellé du champ d'exercice infirmier indique que l'infirmière est habilitée à déterminer, mais aussi à assurer la réalisation du plan de traitement. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là concrètement en matière de plan de traitement pour une plaie?
Bien, en fait, c'est une fois que l'évaluation adéquate est complétée, l'infirmière ou l'infirmier qui détermine le plan de traitement le fait en fonction de des meilleures pratiques reconnues et des données probantes qui sont en lien avec les constats de son évaluation. Le but, c'est de s'assurer que le plan correspond le mieux possible aux besoins de l'usager, mais aussi à sa réalité en fonction de son potentiel de guérison. Encore une fois, l'importance de l'approche partenariale avec l'usager. Dans quelle mesure l'usager a la volonté ou la capacité de pouvoir adhérer au plan de traitement proposé?
Oui. Parce que quand tu parles d'assurer la réalisation, bien, si le patient est mis au cœur de ses soins ou son proche, dans quelle mesure qu'il est capable de le faire, finalement? Là?
C'est ça. Au niveau financier, est-ce qu'il y a les mesures, les moyens financiers d'y arriver? Est-ce qu'il y a des enjeux avec les déplacements? Est-ce qu'il est capable de se déplacer, par exemple, au CLSC? Est-ce que le CLSC peut aller à domicile? Est-ce qu'il peut avoir une notion d'auto-soin qui peut être fait par soit l'usager, par sa famille? Le soutien social aussi. Donc, est-ce qu'il y a des proches qui peuvent aider cette personne-là? C'est toutes des choses qui sont à prendre en considération quand on procède en évaluation, en émettant un plan de traitement.
Donc, on parle beaucoup aussi, en pratique infirmière, d'obligation de moyens. Donc,
oui, en fait, l'infirmière se doit de mettre les moyens raisonnables en place pour parvenir à assurer un suivi. Donc, que ce soit par la documentation écrite, par un suivi avec l'infirmière, elle doit également déterminer la fréquence des soins, la fréquence de l'évaluation de la plaie, les modalités des communications à établir. Aviser qui doit-on aviser et dans quelle situation on doit aviser aussi. Assurer la réalisation du plan de traitement infirmier implique de prendre les moyens raisonnables pour y parvenir et et la documentation clinique en est un levier essentiel. Documenter adéquatement l'évaluation de la plaie et le plan de traitement à l'aide des formulaires appropriés selon votre établissement.
Quand on cogitait un petit peu tout ensemble là, sur ce balado-là, on parlait de la documentation, justement. Puis là, on disait qu'il y avait cette pratique-là où est-ce que les infirmières, infirmières auxiliaires, par exemple, se séparaient les notes. J'imagine qu'en matière d'assurer la réalisation du plan de traitement, c'est pas logique, cette façon de faire-là. En fait, c'est jamais logique. Chacun documente ses propres interventions, mais...
Oui, effectivement, Julie, tu le nommes très bien, tu sais, de se séparer les notes de ce qu'on fait, ben, ou de ce qu'on fait ensemble, si ce n'est pas une bonne pratique en soi. Oui, il y a des formulaires de documentation clinique qui permettent de tous et chacun là, y participer. L'infirmière auxiliaire peut contribuer à l'évaluation, qu'elle peut documenter à même certains formulaires ou même à même une note narrative. On a déjà vu là, dans le passé, dans certains documents, tu sais, du copier-coller ou bien où on vient peu décrire ce qu'on a fait, mais plutôt se fier à ce que notre collègue a peut-être fait pour avoir plus de rapidité dans notre structure de travail. Mais c'est vraiment important, déontologiquement parlant, entre autres, de toujours venir documenter ce qu'on a réellement fait au quotidien, non pas venir... justement faire un copier-coller là, de nos collègues, même si c'est peut-être similaire à la réalité qu'on a observée. Il faut vraiment que ça soit une nouvelle note avec des nouvelles observations.
De ce qu'on a soi-même observé, en effet. Puis tu sais, cette tendance-là, avec surtout les dossiers numériques, là, les dossiers, tu sais, je pense au DCI Ariane, mais c'est facile hein, de juste se faire copier-coller, tu sais, enter, mais là, il faut porter une attention à ça, principalement dans l'évaluation du soin de plaie.
Tant qu'à parler de notes, j'ai une question pour toi, Catherine, comme stomothérapeute. Tu sais, en arrivant sur un étage, est-ce que vous avez à consulter les notes qui sont déjà, qui ont été faites sur les évaluations des infirmières sur l'étage? Est-ce que des fois, il y a des enjeux associés à ça, là, justement, là, avec des partages de notes ou des fois, peut-être, on en parlait dans un autre épisode, des fois, peut-être qu'il y a un souci du détail qui n'est pas nécessairement, on ne pense pas que c'est important de le noter, donc on ne le note pas, mais peut-être que ça l'est. Comment ça se passe? De votre côté?
Il y a plusieurs enjeux au niveau de la documentation infirmière, surtout en lien avec les copier-coller, comme tu le mentionnes, Julie. Pour donner un exemple, on peut avoir, par exemple, un usager qui a une lésion de pression au niveau de la fesse droite, mais que dans les notes vont être écrits au niveau de la fesse gauche, alors que les gens vont avoir fait du copier-coller tout au long des notes pour, quand moi, je vais arriver, me rendre compte que finalement, la lésion de pression n'est pas au bon endroit depuis ce qui est indiqué dans les notes infirmières.
C'est préoccupant.
Effectivement. Effectivement.
Tu sais, là, on parle beaucoup de la notion de déterminer, documenter. Les infirmiers et infirmières auxiliaires, là, eux et elles, dans le fond, ne peuvent pas déterminer un plan de traitement. Mais ça reste que leur contribution est essentielle.
Oui, leur contribution est essentielle parce que majoritairement, c'est les infirmières auxiliaires qui vont refaire le pansement, qui vont refaire le plan de traitement. Leur contribution, dans le fond, est très précieuse parce qu'on s'attend à ce qu'ils avisent les infirmières lorsqu'ils remarquent une détérioration, un changement au niveau de la plaie. Mais ils ne peuvent pas changer le plan de traitement ou modifier la fréquence d'un pansement. C'est une contribution avec l'infirmière. Donc, par exemple, l'infirmier auxiliaire peut nommer à l'infirmière que... il y a une augmentation de la fréquence de... qu'il y a une augmentation de l'exsuda. Donc, l'infirmière peut décider par la suite d'augmenter la fréquence des changements de pansement.
Oui, comme juste petit lapsus, tantôt, tu disais l'infirmière auxiliaire peut refaire le plan de traitement, mais tu voulais dire peuvent appliquer, en fait, se doivent d'appliquer le plan de traitement tel quel puis ne peuvent pas le modifier tout à fait. Oui.
Oui.
Au niveau des habiletés techniques aussi?
Le fait de faire beaucoup de pansements, de soins de plaie en tant qu'infirmier, infirmière auxiliaire, on développe une habileté technique que certaines infirmières n'ont pas nécessairement. Donc, les infirmiers et infirmières auxiliaires sont les yeux, les oreilles des infirmières. Donc, c'est vraiment important d'avoir une belle collaboration entre les deux professionnels.
Oui. Je pense beaucoup dans les CLSC, que ce soit les suivis infirmiers courants ou les soins à domicile. Souvent, c'est les infirmiers et infirmières auxiliaires qui vont les faire, dans le fond, les nettoyer les plaies, refaire
Absolument.
Les pansements. Donc, là, je veux qu'on en parle parce que ça, je sais que c'est un peu un mythe, puis j'aimerais ça qu'on vienne l'élucider ensemble. Là, concrètement parlant, tu sais, les infirmières et infirmiers peuvent déterminer un plan de traitement. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une ordonnance d'un médecin ou d'une IPS pour choisir le type de pansement, par exemple, à utiliser, là.
Exactement. Ça fait partie de l'activité réservée des infirmières de choisir un plan de traitement, de déterminer du moment que l'évaluation est adéquate. L'évaluation complète a été faite. L'infirmier et l'infirmière peuvent choisir le plan de traitement et ce, même si un antimicrobien doit être en place. Ils peuvent décider de la fréquence des changements de pansement. Tout ça n'est pas obligé d'être prescrit par un médecin ou une IPS.
Oui. Puis concernant la fréquence, on en parlait un petit peu tantôt, mais c'est pas obligé d'être systématiquement, par exemple, selon une recette, tu sais.
En fait, c'est un plan de traitement. En lien avec le plan de traitement, bien, si par exemple, moi, je vais voir un dossier, je nomme que le pansement peut être changé à tous les 2 jours parce que selon mon évaluation, je juge que le pansement peut être changé aux 2 jours. Par contre, l'infirmière se rend compte que 2 jours, c'est pas suffisant. Le pansement est souillé à plus de 75 %, la peau périlésionnelle, donc autour de la plaie, est macérée. L'infirmière est en droit de dire, bien, je pense qu'on serait mieux de le changer à tous les jours et réévaluer par la suite le changement qu'on a fait au niveau du plan de traitement.
Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a toujours cette notion-là que si ça a été prescrit par le médecin, ça, c'est quelque chose qui est toujours plus compliqué, mais le médecin, il veut le changement de pansement à tous les 2 jours. À ce moment-là, il ne faut pas fermer les yeux non plus quand même. T'sais, on se doit justement d'établir les communications avec le prescripteur et lui faire part des constats de notre évaluation pour proposer un arrangement finalement de la fréquence.
Oui, ben en fait, si je peux rebondir, c'est au niveau de la responsabilité professionnelle aussi. Un médecin peut te prescrire, je vais oser dire n'importe quoi, là, dans le sens qu'il peut prescrire un médicament, il peut prescrire un plan de traitement dans le cas où on se parle, mais l'infirmière a toujours le droit et est dans son droit, en fait, de revoir ce plan de traitement-là. Peut-être que le patient, quand il a vu le médecin, ben c'était peut-être ça qu'il avait besoin comme plan de traitement pour dire quelque chose, un hydroferablou avec une mousse, là, pour nommer ceux-là. Mais que quand toi, comme infirmière, tu vas au chevet du patient puis que ses besoins ont changé, peut-être que c'était trop absorbant, finalement. L'écoulement n'est pas si important que ça pour X, Y raison parce qu'il y a eu des changements dans la prise en charge de l'usager ou dans sa propre prise en charge, ben, tu as le droit comme infirmière de changer ce plan de traitement-là. Mais oui, effectivement, Julie, tu le nommes bien. Considérant qu'il y a eu une prescription avant de plan de traitement, tu te dois aussi de communiquer cette information-là de changement de plan de traitement auprès du prescripteur, que ce soit IPS ou que ce soit un médecin.
Il y a une situation que j'ai souvent croisée, j'ai souvent entendu parler, puis peut-être que vous allez, ça va peut-être vous dire quelque chose aussi. Sur une même unité, par exemple, ben, 2 infirmières, 2 corps de travail qui changent chacune à tour de rôle le plan de soins de plaie parce que les 2 ont raison, mais je pense que ce qu'on retirerait de tout ça avec ce que vous nous dites, finalement, ben, c'est oui, la collaboration entre les professions, mais au sein même de la profession, sans doute.
Et
c'est ça,
ouais.
dans l'unité.
Oui, bien en fait, plusieurs littératures suggèrent d'attendre minimalement 2 semaines avec le même plan de traitement pour vérifier l'efficacité de celui-ci. Fait que, tantôt, je parlais de changement de fréquence de pansement. Ça, c'est correct. On peut se permettre d'ajuster la fréquence en fonction de notre jugement clinique, de notre évaluation. Par contre, il est conseillé par la littérature de garder le même plan de traitement pour un minimum de 2 semaines, de faire une réévaluation. Est-ce que le plan de traitement est adéquat? Est-ce qu'il n'est pas adéquat? Si c'est le cas, on peut se permettre de changer le plan de traitement. Par contre, si on le change trop fréquemment, par préférence, comme tu le nommes, Sophie, bien, ça entraîne plutôt un retard de croissance dans la cicatrisation, puis ça ne nous permet pas d'évaluer si le plan de traitement émis est adéquat ou non. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'attendre 2 semaines avant de changer le plan de traitement.
Mm-hmm. Si je peux me permettre aussi, Julie, j'aimerais juste rajouter que c'est là que l'importance de la collaboration est pertinente, en fait, parce que c'est non seulement quelque chose qui est collaboratif, mais c'est aussi d'avoir confiance en ses collègues, parce que, je le nommais un petit peu plus tôt, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette en soins de plaie. Fait qu'effectivement, la recette de Catherine peut être différente de la mienne, mais elle va probablement répondre aux mêmes besoins de l'usager. Donc, le défi des 2 semaines de la littérature est important à ce niveau-là, puis il faut faire confiance envers nos collègues puis envers leur évaluation.
Tant qu'à parler d'interdisciplinarité puis de collaboration, il y a une question qui me venait en tête. Là, on parle beaucoup d'évaluation, de détermination, de déterminer les plans de traitement, mais la contribution, donc, des autres professionnels aussi, c'est super important.
Ben oui, en fait, tout le monde peut avoir un impact dans la prise en charge des plaies ou dans le traitement de ceux-ci. Je l'ai brièvement énoncé plutôt dans la rencontre la collecte de données de l'usager. Dans la collecte de données qu'on va faire au niveau de la globalité du patient, dans son alimentation, dans ses habitudes de vie, dans sa mobilité, ben, c'est possible qu'il y ait certains facteurs de risque qui ont un effet sur le processus de cicatrisation de l'usager. Qu'on parle de diabète, de maladies artérielles, de dénutrition, de tabagisme, certaines occupations. T'sais, peut-être que le travail du patient peut avoir un impact. Nos fameux gars de construction qui sont debout à longueur de journée dans saleté, etc. Bien, on s'entend que ce ne sera pas la même prise en charge de, oui, peut-être une personne âgée qui reste dans son domicile, qui a un entretien fait par quelqu'un qui, on s'assure un petit peu plus de la salubrité de l'environnement puis des contaminants qui sont potentiellement possibles. Donc, c'est là que déterminer l'étiologie de la plaie, bien, ça permet d'en traiter la cause puis de s'adapter aussi puis d'aller rechercher les collaborateurs qui sont nécessaires à une prise en charge optimale de notre usager. C'est vraiment une étape qui est importante dans les soins, parce que si la cause n'est pas adressée, bien, le potentiel de cicatrisation, bien, il est limité, même si c'est le meilleur un plan de traitement local que tu as pu mettre en place. Fait qu'un patient, par exemple, qui aurait besoin d'une compression veineuse ou d'une décharge, par exemple, sur un ulcère du pied diabétique, bien, ça se peut que tu aies besoin de d'autres professionnels pour, je donne un exemple, une lésion de pression. Bien oui, l'infirmière peut déterminer une surface thérapeutique, mais ton meilleur professionnel, ça va être ton ergothérapeute qui va pouvoir peut-être faire une évaluation plus approfondie de la situation du patient. Fait que quand tu parles de collaboration, d'interdisciplinarité, bien, selon l'évaluation globale, ces facteurs de risque vont être capables d'aller mobiliser les gens autour du patient. À savoir d'ailleurs, en fait, que l'infirmière a pu compléter sans avis médical une requête à certains services professionnels bon si point. Elle le juge nécessaire. Donc, tantôt, je parlais d'ergothérapeute. Bien, l'infirmière a pu prendre le téléphone si c'est à l'interne du centre hospitalier puis téléphoner à l'ergothérapeute ou recourir aux trajectoires là, qui sont connues du milieu. C'est souvent encore une fois un peu culturel de penser que ça prend une prescription d'un médecin, d'un IPS ou d'un autre professionnel pour avoir accès à nos collaborateurs interprofessionnels.
C'est important de se le rappeler, ça. Donc, on a cette autonomie-là de faire ces requêtes-là pour d'autres professionnels.
Oui. Je pensais beaucoup, justement, aussi à tout le volet nutrition, tu sais, nutritionniste. Puis même travailleur social, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, si on a un patient qui a des problèmes, oui, à s'alimenter, mais que la cause première, c'est qu'il n'a pas les moyens de s'alimenter, ça se pourrait, par exemple, qu'une travailleuse sociale pourrait être mise dans la boucle pour aider à, justement, déterminer quel service serait disponible pour répondre à ces besoins-là.
Oui, effectivement. Puis à ce moment-là, la nutritionniste va faire l'évaluation nutritionnelle, mais la travailleuse sociale va faire tout ce qui est psychosocial pour aider l'usager à se trouver les moyens et peut-être des dons, des coupons pour aider l'usager à s'alimenter.
Oui, oui. On parle beaucoup de soins de plaie, souvent avec une visée curative, donc dans le but de guérir, mais faut pas oublier aussi tout le volet préventif, Catherine.
Non, c'est super important. Puis dès qu'on voit qu'un usager peut être à risque, c'est important de mettre les mesures préventives en place. Donc, c'est à l'infirmière de déterminer quelles vont être ces mesures préventives-là. Est-ce que c'est d'installer une surface d'appui au lit? Est-ce que de mobiliser l'usager aux 2 heures si c'est quelqu'un qui n'est pas capable de le faire par lui-même, de mettre les talons dans le vide? C'est quelque chose qu'on oublie souvent aussi, mais l'hydratation au niveau de la peau peut être très importante. Donc, que ce soit pour boire de l'eau ou hydrater la peau quotidiennement va prévenir des lésions par la suite. Donc, la prévention est très importante.
Puis je pense beaucoup à l'approche partenaire avec justement les proches aidants. Tu sais, parfois, ils ne savent pas trop comment ils peuvent nous aider. Bien, d'hydrater la peau en appliquant la crème hydratante, c'est une bonne façon de les mettre à contribution aussi.
Oui, ou s'assurer de nommer, tu sais, au patient, t'as-tu bu ton eau, d'y amener un verre d'eau si jamais on voit que son verre est vide ou des choses comme ça. Mais ça peut être des actions que le proche aidant peut faire.
Et quel sera toujours le meilleur moyen, justement, d'assurer une traçabilité là de ces moyens raisonnables que l'infirmière a mis en place pour prévenir?
Prévenir, ben, c'est de le noter dans la documentation clinique, c'est-à-dire le PTI, le plan de soins pour l'usager, démontre les moyens raisonnables pour les interventions qu'on a mis en place.
Oui. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, hein, ça a été très médiatisé en 2024, l'enquête s'est poursuivie en 2025 là, avec le rapport du coroner Kimpton concernant le décès de M. Normand Meunier, 66 ans, tétraplégique, connu du milieu hospitalier. Donc, il a passé 4 jours sur une civière à l'urgence. une importante lésion de pression qui l'a finalement conduit quelques semaines plus tard à demander l'aide médicale à mourir. Là. Et une des recommandations qui ressortait beaucoup du coroner Kimpton, c'était justement que l'interdisciplinarité n'avait pas été mise dans la boucle. Dès le départ, le médecin avait demandé une prise en charge interdisciplinaire, mais finalement, personne ne s'était parlé. T'sais, la nutritionniste, l'ergothérapeute sont arrivés, mais beaucoup trop tard, une fois que le mal était fait, finalement.
Soins sécuritaires,
réontologie, L3S,
acte réservé.
Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmier ou infirmière, de procéder à un débridement chirurgical conservateur d'une plaie, et ce, de façon autonome? La réponse est oui. L'activité réservée numéro 7 du champ d'exercice infirmier, permettant de déterminer le plan de traitement relié aux plaies et altérations de la peau et téguments, permet aussi de prodiguer les soins et traitements qui n'excluent pas le débridement chirurgical conservateur. Néanmoins, cette méthode de débridement nécessite des compétences et des connaissances avancées en soins de plaies de la part de l'infirmière ou l'infirmier. Le débridement présente un certain niveau de risque pour les usagers et usagères. Si la technique est mal exécutée ou si elle est exécutée de façon non sécuritaire, en n'en pas compte, par exemple, d'un apport vasculaire suffisant des membres inférieurs, le débridement risque d'entraîner préjudice à la personne. L'autonomie du personnel infirmier dans cette activité doit tenir compte de ses connaissances et habiletés dans le domaine de soins de plaies de façon globale et non exclusivement quant à l'exécution de la technique de débridement proprement dit. Sachez qu'une formation de 7 heures est offerte par l'OIQ pour développer ses compétences chez les professionnels, et d'autres formations sont aussi offertes par nos infirmières stomothérapeutes au CIUSSS Lestrichu dans les mois à venir. Pour rappel que l'obligation d'agir avec compétence considère aussi de tenir compte des limites de ses compétences, et l'infirmière engage pleinement sa responsabilité professionnelle lors de chaque intervention qu'elle pose. Il est important de se référer aux documents d'encadrement qui sont disponibles au sein de l'établissement dans la section outils cliniques de l'intranet, soins de plaies de la peau et des téguments.
On sait que le domaine des soins de plaies occupe une place importante dans le champ d'exercice des professionnels en soins infirmiers. On le démontre bien depuis tantôt. Mais je pense notamment que les infirmiers et infirmières, il y a le droit de prescrire qui s'applique largement dans ce domaine-là. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
Oui, bien absolument. L'infirmier ou l'infirmière, en fait, peut réaliser une formation là, qui lui octroie le droit de prescrire via l'Ordre des infirmiers et infirmières. Donc, c'est vraiment pas les DSI des établissements là, qui s'occupent de donner le droit de prescrire. C'est vraiment via l'OIQ, considérant que là, ça rebondit au niveau du code de déontologie. Ce droit lui permet notamment de prescrire des pansements et des produits de soins de plaies, permettant ainsi à l'usagère de se procurer, ou à l'usager en fait, de se procurer lui-même des fournitures de soins qui sont nécessaires à son soin, via notamment les pharmacies communautaires. En passant, on en profite aussi pour préciser que toute demande qui concerne le droit de prescrire, bien, qu'il s'agisse de formation, je l'ai un peu dit tantôt aussi, l'obtention du droit d'un numéro de prescripteur, bien, ils doivent s'adresser vraiment là, à l'OIQ, parce qu'on a souvent ces questions-là de savoir peux-tu me donner la formation?
J'ai est-ce que
la
DSI?
Oui, exactement. Ouais. Donc, il faut vraiment aller via l'OIQ pour ces informations-là. Il est à savoir aussi, dans le cadre de la prescription en soins infirmiers, que les produits qui peuvent être prescrits par l'infirmier ou l'infirmière permettent un remboursement via la Régie de l'assurance maladie du Québec, donc la RAMQ, et que ce n'est pas l'ensemble des produits et des pansements pour les soins de plaies qui peuvent être prescrits et remboursés. Donc, il faut vraiment se fier à la liste là, qui est disponible sur le site Internet de la RAMQ pour savoir qu'est-ce qui peut être prescrit pour le patient. Mais la majorité des produits communément utilisés là, dans les services sont disponibles. Des fois, c'est juste une marque en particulier qui est remboursée versus un autre, mais la majorité sont là.
Donc, c'est vraiment pertinent, tu sais, dans un contexte, par exemple, d'usagers en vulnérabilité, tout ça, de porter une attention particulière là, au choix du matériel qui va être utilisé dans la confection des pansements.
Absolument, d'où l'évaluation globale du patient qu'on parlait tantôt, ses ressources financières. Donc, est-ce que c'est la prescription infirmière qui va lui permettre d'avoir des meilleurs soins à court terme? Et aussi, tu sais, c'est aussi à savoir que, oui, il y a la RAMQ, mais certains patients vont dire, bien, moi, j'ai des assurances privées, par exemple, où je fais partie d'un programme de remboursement des anciens combattants ou, bref, de d'autres divers agents payeurs, bien, il y a aussi des modalités de remboursement qui peuvent être faites via des assurances privées notamment, mais ça, il faut que l'usager fasse les communications là, pour en savoir davantage sur qu'est-ce qui peut être remboursé ou pas via son agent payeur. D'un autre point de vue aussi, bien, la prescription infirmière, ça permet, en tout cas pour nous, de sensibiliser l'usager au coût qui est associé à ses soins, puis même favoriser parfois l'usager ou l'usagère à adhérer à son plan de traitement. Tu sais, je m'explique un peu, c'est sûr que quand c'est toi-même qui débourse de ta poche une certaine partie, même si la RAMQ rembourse, mais ne rembourse pas en totalité, bien, ça vient quand même sensibiliser, avoir un effet de sensibilisation auprès de l'usager qui va peut-être avoir plus conscience de ce que ça représente comme coût, ne serait-ce qu'au niveau du temps de soins, des produits qui sont utilisés pour gérer sa prise en charge. Donc, il va peut-être avoir plus tendance à vouloir adhérer, à se présenter à ses rendez-vous, à peut-être agir différemment chez lui s'il y a eu des conseils qui lui ont été donnés, par exemple, en termes de nutrition, des choses comme ça, pour favoriser sa guérison, bien, d'avoir la prescription puis de débourser un petit peu. Parfois, ça a d'autres effets positifs sur la prise en charge.
Puis là, en gros, là, si on voudrait avoir un peu le portrait des principales responsabilités ou obligations qui découlent du droit de prescrire dans le domaine du soin de plaie pour nos infirmières, ça serait intéressant d'en parler un petit peu.
L'infirmière demeure responsable de ce qu'elle prescrit. Donc, c'est-à-dire, elle doit faire l'évaluation initiale, déterminer le bon plan de traitement pour l'usager et elle prescrit selon son meilleur jugement, selon les bonnes pratiques aussi. Pour assurer le suivi, est-ce qu'elle est obligée d'assurer le suivi par elle-même? Je vous dirais que non. En fait, ce qui est important, c'est de transférer le suivi à une personne qui va continuer les soins de l'usager. Donc, par exemple, un usager qui est hospitalisé, vous faites la prescription pour l'usager. Usager hospitalisé quitte vers le CLSC, le fait d'avoir fait la prescription, l'infirmière va réévaluer par la suite et ça va être à elle de changer le plan de traitement si elle a besoin. Mais on n'est plus responsable de faire le suivi parce que le suivi est assuré par l'infirmière qui va prendre à nouveau le patient en charge en CLSC.
En fait, juste bien amener le bémol, on demeure toujours responsable d'assurer le suivi, mais c'est pas nécessairement être suivi fait par moi-même. Donc, les soins peuvent être faits par une autre professionnelle habilitée à faire le suivi. Mais à ce moment-là, tout transige quand même par des communications qui sont claires et efficaces. Donc, le plan de traitement doit se rendre à destination, finalement, de cette infirmière-là.
En fait, dis-moi si je me trompe, Julie, mais c'est un peu ce qui revient à prendre les moyens raisonnables et notre responsabilité professionnelle de favoriser le suivi au meilleur de nos connaissances, compétences en lien avec tout ce qui peut être en périphérie de l'usager, notamment les services du CLSC.
Fait que ça nous oblige comme professionnels aussi à avoir une bonne vision du corridor de service, de la trajectoire de soins qui s'offre à l'usager. Parce que si l'usager, je lui fais un droit de prescrire, mettons, à partir de l'hôpital pour qu'il puisse se procurer ses pansements à la pharmacie via la RAMQ et que là, finalement, il n'est pas pris en charge par le CLSC, il n'y a pas personne autour de lui, comment vais-je assurer le suivi? Fait que là, c'est là que je crois qu'il faut quand même être logique en lien avec notre application du droit de prescrire.
Nouveauté. Développement. Accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Plusieurs documents d'encadrement de la pratique infirmière en matière de soins de plaie sont actuellement disponibles au CIUS de l'Estrichu. Cette diversité s'explique par la complexité de cette pratique et par les risques de préjudice pour l'usager lorsque les interventions ne sont pas réalisées selon les normes, notamment en ce qui concerne le débridement chirurgical conservateur. Ce type de débridement, qui consiste à retirer les tissus dévitalisés du lit de la plaie à l'aide d'instruments tranchants tels qu'un bistouri, une curette ou une pince, est reconnu pour son efficacité. Toutefois, il requiert des compétences avancées, tant sur le plan des connaissances que des habiletés techniques. Dans ce contexte, des modifications ont été apportées à la règle de soins infirmiers sur les pratiques professionnelles reliées aux soins de plaie, aux altérations de la peau et des téguments. Ces ajustements, combinés à l'ajout d'un protocole infirmier portant spécifiquement sur le débridement chirurgical conservateur, visent à mieux baliser le cadre légal et clinique entourant cette pratique, tout en assurant la sécurité des usagers. Par ailleurs, considérant les exigences techniques associées à cette intervention, le CIUS de l'Estrichu a développé une formation théorique et pratique dédiée au débridement chirurgical conservateur. Celle-ci a été offerte pour la première fois le 30 avril dernier et a été très favorablement accueillie par les participantes et participants de la première cohorte. D'autres cohortes de cette formation sur le débridement chirurgical conservateur sont prévues à l'automne 2026 et il est souhaité d'offrir 4 cohortes de formation par année. Restez à l'affût!
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulasladj.
Déterminants sociaux et accès aux soins. Les déterminants sociaux de la santé sont les facteurs non médicaux interconnectés qui affectent notre bien-être. Ils comprennent les conditions dans lesquelles nous naissons, grandissons, travaillons, vivons et vieillissons, tels que le revenu, l'éducation et le logement. Ils comprennent également le contexte économique, politique et social au sens large. Améliorer la santé des personnes signifie répondre à la fois aux besoins médicaux et aux besoins sociaux non médicaux liés à la santé. Par exemple, veiller à ce que chacun ait accès à une alimentation nutritive, à un logement de qualité et à un soutien social essentiel. Comprendre ces facteurs permet de réfléchir à comment offrir des soins plus équitables et adaptés à la population d'un territoire. Par exemple, une personne vivant en situation de précarité peut retarder une consultation faute de moyens pour se déplacer jusqu'au lieu de soins. Voici une liste des 14 déterminants sociaux de la santé selon l'Association canadienne de santé publique. Le revenu et la répartition du revenu, l'instruction, le chômage et la sécurité d'emploi, l'emploi et les conditions de travail, le développement du jeune enfant, l'insécurité alimentaire, le logement, l'exclusion sociale, le filet de sécurité sociale, les services de santé, le statut autochtone, le sexe et l'identité de genre, la race, l'invalidité. Selon l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, il est essentiel que les professionnels comprennent bien l'incidence de ces facteurs sur les personnes et les groupes avec lesquels ils travaillent et qu'ils les intègrent à leurs évaluations. Cette information peut influencer le choix d'intervention et le besoin de recourir à d'autres sources communautaires. Par exemple, de manière plus générale, les infirmières et infirmiers doivent savoir comment améliorer la santé de leurs patients en défendant des politiques progressistes qui portent sur les déterminants sociaux de la santé. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section EDI sur l'intranet du CIUS de l'Estrichu.
Donc, pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, en ouverture, on parlait de l'importance de la formation continue, comme quoi que l'OIIQ et même l'OIAQ, dans le fond, encourage les gens là, et professionnels à se mobiliser là-dedans. J'aimerais ça justement qu'on en parle un petit peu de ces formations-là. Ça peut être aussi des lectures que vous auriez à suggérer.
Afin de bonifier les connaissances des infirmières et infirmières du CIUS de l'Estrichu, les stomothérapeutes ont développé un parcours de développement des compétences en soins de plaies. Ce parcours est divisé en 4 modules, soit le 101, 102, 103 et 104. Lors de ces formations, la démarche clinique globale est démontrée par l'évaluation de l'usager, identifier les contraintes à la cicatrisation, déterminer l'étiologie de la plaie, l'évaluation de la plaie, déterminer également le potentiel de cicatrisation, les objectifs de soins et finalement assurer le plan de traitement final. Le dernier module 104 donc porte sur le débridement chirurgical dont Sophie vient tout juste de parler. Plusieurs formations aussi en soins de plaies sont disponibles à l'externe, notamment le micro-programme de deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke, les formations offertes en ligne par l'OIQ. Les différents outils aussi peuvent être consultés. Donc, le cadre de référence en soins de plaies, aidez-moi s'il vous plaît, disponible via l'intranet ou sur la plateforme MSI du CESS. Les outils de l'INES peuvent être également consultés. Sont une belle référence en soins de plaies ou toute autre publication d'une instance reconnue, par exemple Wounds Canada, peuvent être des formations là, qui peuvent augmenter les connaissances en soins de plaies.
Donc, tu parlais des outils de l'INES. En passant, l'INES a une application qui est disponible du moins via Apple, mais sûrement via Google aussi, là, où est-ce qu'il y a différents algorithmes selon le type de plaies qu'on rencontre, donc l'étiologie, puis qui aide justement l'infirmier ou l'infirmière à réfléchir là, sur le bon plan de traitement.
Absolument, puis il est vraiment fait selon ce qu'on parlait tantôt, l'évaluation globale de l'usager. Il donne pas non plus de recettes, fait que ça c'est aussi intéressant, ça amène vraiment à réfléchir de la part du professionnel de la santé qui est en arrière du téléphone, si je peux me permettre, pour vraiment essayer de l'aider à déterminer le meilleur plan de traitement. Mm-hmm.
Est-ce que je peux me permettre également de dire que dans notre CIUS, ben toute l'équipe de stomothérapeutes reste aussi une belle référence en matière de soins de plaies. Je pense que on doit le souligner, puis aussi dire qu'on est chanceux là, de les avoir au sein de notre établissement.
Donc, c'est ici que se termine ce sixième épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Alors, merci à vous deux, Jessica et Catherine.
Merci beaucoup de l'invitation.
Oui, ça nous a fait vraiment fait plaisir de venir vous parler de soins de plaies aujourd'hui.
Donc, dans le prochain épisode, Sophie?
Ben oui, prochain épisode, on accueille au studio Maître Kathleen Gélina, avocate, mais aussi coroner pour le bureau du coroner dans la région de l'Estrie. Ce sera très intéressant, je vous le dis tout de suite, et c'est un rendez-vous.
Donc, c'est ce qui conclut le sixième épisode du balado Savoir et Stéthoscope.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.